Le psaume 84 va être notre sujet de méditation ce soir et nous le lisons en entier, 13 versets. Au chef de chœur, sur la Gittite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font un oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître et ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce psaume peut être intitulé le psaume du voyageur qui se met en route vers la présence de Dieu, vers la maison de Dieu, vers la tente de l'Éternel. Et déjà une première chose qui nous frappe, c'est les fois où figure ce mot « heureux » au verset 5, « heureux ceux qui habitent ta maison », verset 6, « heureux les hommes dont la force est en toi », et verset 13, « heureux l'homme qui se confie en toi ». Donc, le bonheur de la présence de Dieu est souligné, c'est comme une note de base dans ce texte. Le bonheur est pour ceux qui vivent et qui aiment la présence de Dieu. Amen. Le bonheur, oui, le bonheur. Et ce cadeau, ce don est fondé sur trois piliers, sur trois bases, trois découvertes. Premièrement, donc le verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Ceux qui habitent, ce n'est pas ceux qui passent dans ta maison, ceux qui transitent par ta maison, mais ceux qui habitent ta maison, ceux qui demeurent. Ceux qui restent, ceux qui sont chez eux dans la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu est tellement confortable pour vous que vous ne voulez plus la quitter? Alors que pour d'autres, la présence de Dieu est effrayante et ils la subissent plutôt qu'autre chose. Mais non, nous ne la subissons pas. Nous voulons l'embrasser, nous voulons la saisir, nous voulons la garder, nous voulons y demeurer. La présence de Dieu, c'est habiter dans ta maison. C'est dans ce lieu-là, dans cette habitation, dans cette présence de Dieu, que je peux encore le louer. Ils le loueront encore. Quand ta louange est arrivée à bout, tu peux encore le louer parce que tu es dans sa présence. Quand ta louange s'éteint, quand la musique est partie, tu peux encore le louer parce que tu habites dans la présence de Dieu. Heureux celui qui habite dans la présence de Dieu. Tu peux encore louer. Mais lorsqu'on est étranger à la présence de Dieu, la louange fonctionne quand les autres louent à côté de moi. Mais quand je suis tout seul, la radio ne s'allume plus. La louange ne fonctionne pas. Il me faut des écouteurs pour que ça refonctionne. Est-ce que vous louez sans écouteurs? Est-ce que vous louez parce que vous avez un moteur intérieur? Quelque chose qui fait que, Seigneur, je suis heureux parce que j'habite ta présence. J'habite ta maison. On va mettre le nom présence de Dieu à la place de maison. Parce que, bien sûr, il y avait la tente dans le désert, la tente de la rencontre, mais il y avait aussi le tabernacle et puis ensuite le temple de Salomon, le temple qui était ce lieu d'habitation où Dieu demeurait. Mais Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans sa présence, je peux toujours louer l'Éternel. Cher groupe de louanges, vous faites du bon travail, mais dans la maison où personne ne vous entend, vous pouvez aussi louer. Et chacun de nous, nous sommes appelés à la même chose. Au verset 6, il nous est dit que Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque tu fais de Dieu ta force, lorsque tu as des forces en Dieu, dans sa présence, tu reçois des forces. Tu reçois des forces pour faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Lorsque tu fais ta propre volonté, tu mets en action ta propre force. Mais lorsque tu as besoin de faire la volonté de Dieu, tu reçois de Dieu la force de Dieu pour le faire. La force de Dieu t'est donnée pour faire la volonté de Dieu. Pour faire ta propre volonté, tu as ta propre force. La volonté de Dieu, heureux celui qui trouve les forces en toi, mais pour faire sa volonté à lui. Et c'est là que tu trouves le chemin tout tracé. C'est là que tu vois des portes s'ouvrir. Lorsque tu es dans sa volonté, il n'y a jamais toutes les portes fermées, mes amis. Il n'y a jamais toutes les portes fermées. Et s'il y a des portes fermées, Dieu t'ouvre une fenêtre. Quelque chose s'ouvre toujours. Parce qu'il n'y a jamais tout à fait toutes choses qui sont fermées. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, la porte du ciel s'ouvrait. Et ils ont loué Dieu et Dieu a agi en fonction de leur louange. Dieu a répondu. Il n'y avait pas toute chose qui était fermée dans les circonstances adverses que vivaient Paul et Silas. Mais il y avait ce bonheur pour les hommes dont la force est en toi. Il y a la force pour le verset 7. Lorsque nous traversons les vallées de Baca, ce sont les vallées, vous avez des petites notes peut-être dans vos Bibles, les vallées des pleurs, qui deviennent à ce moment-là des lieux de sources. C'est comme si des sources insoupçonnées, non pas tombent du ciel, une pluie tombe du ciel, mais ce sont des sources souterraines qui s'ouvrent dans les vallées profondes que nous traversons. Vous pouvez certainement en témoigner vous-même. Lors des moments où nous avons que nos larmes pour pleurer ou nos yeux pour pleurer, dans ces moments, eh bien, nous sommes parfois par terre, nous sommes parfois au bout de nos forces personnelles. Et tout à coup s'ouvre une source secrète et de l'eau jaillit. Quelque part, une source s'ouvre et devient bénédiction. Et après, vous pouvez partager cette bénédiction. Lorsque vous traversez cette vallée, une fois que vous l'avez traversée, eh bien, elle devient un oasis pour vous-même, mais aussi pour d'autres, parce que vous pouvez mieux comprendre les autres, vous pouvez mieux les écouter, vous pouvez mieux compatir, vous pouvez mieux aimer, vous pouvez mieux prendre les gens dans vos bras simplement et pleurer avec ceux qui pleurent, parce que vous avez passé vous-même par la vallée de Baca et vous avez vous-même trouvé les forces de Dieu pour traverser les vallées difficiles. Est-ce que quelqu'un a déjà traversé une vallée difficile en recevant les forces de Dieu tout à coup? Vous êtes demandé, mais je n'en peux plus Seigneur. Et tout à coup, comme par enchantement, la force a été donnée pour faire le pas suivant. Je l'ai fait si souvent cette expérience, si souvent. Et il est même dit que, au verset 8, que leur force augmente pendant la marche et ils se présente finalement à la bonne destination et il se présente à Dieu, à Sion. Heureux ceux qui habitent sa présence. Ils ont encore de la louange en réserve. Ils ont encore un moteur de louange. Heureux ceux qui ont trouvé la force en Dieu. Eh bien, ils avancent par les forces que Dieu leur donne instant après instant. Puis au verset 13, il est dit que heureux, cette autre clé du bonheur, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. Alors, dans ce psaume, si vous le lisez encore une fois tranquillement, vous allez être étonné du nombre de fois que les psalmistes, ceux qui ont écrit ce psaume, le nombre de fois que vous trouvez les noms du Seigneur. En fait, il y en a, si vous faites le compte, 18 fois sur les 13 versets. 18 fois des choses sur Dieu. Des attributs de Dieu sont donnés 18 fois sur 13 versets. C'est-à-dire que les psalmistes connaissent tellement Dieu qu'ils disent, mais avec un Dieu pareil, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, mon soleil, mon bouclier, mon Dieu, mon roi, tous ces noms-là, je suis tellement riche par ces noms que ma confiance, elle est fondée en toi. Sur quoi est fondée votre confiance en Dieu? Pour fonder notre confiance en Dieu, vous devez connaître Dieu. Vous devez le connaître tel qu'il est. Et le psalmiste ici connaissait son Dieu. Regardez ce nom qu'il invoque, Éternel des armées, ça revient 4 fois. Verset 2, tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Verset 4, il nous est dit, tes autels, Éternel des armées. Verset 9 encore, Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Et le verset 13, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en lui. Ça veut dire, moi je connais le Dieu qui se bat pour moi. L'Éternel des armées, c'est ce Dieu qui se lève avec son armée pour se battre à mes côtés. Et ce Dieu qui est l'Éternel des armées, eh bien, je sais que je suis bien assuré, je suis bien défendu par mon Seigneur, l'Éternel des armées, et c'est pourquoi je me confie en lui. Le bonheur, parce que sa présence dans laquelle j'habite me permet de le louer encore. Le bonheur, parce que la force m'est donnée étape après étape. Ma force est en lui et je trouve en lui des chemins qui sont tracés, qui s'ouvrent tout à coup. Le bonheur parce que je connais Dieu et je sais sur qui je peux compter et me confier complètement. Parce que je le connais. Et le Dieu vivant, il est mon roi, mon Dieu, le Dieu de Jacob, notre bouclier, le soleil. Maintenant, qui parle de cette façon donc? Le verset 1 nous dit que c'est un psaume des fils de Corée. Alors, il faudrait faire une petite recherche pour savoir un peu qui c'est ces fils de Corée. Dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 19, vous regarderez, et il nous est dit que ce sont des gardiens de la tente et du tabernacle dans le désert. Et puis, donc, ça c'est du temps de Moïse, ils gardent les portes, les alentours de la tente de rencontre. Et puis, dans 1 Chronique 26, lorsque vous lisez cela, vous trouverez que sous David, eh bien, les mêmes fils de Corée sont toujours dans cette fonction de gardien. 1 Chronique 26, je regarde juste avec vous. Et là, nous trouvons que ces fils de Corée, déjà depuis le verset 1, vous pouvez avancer jusqu'au verset 19, vous trouverez toute la liste des fils de Corée qui sont bénis dans cette fonction. Donc leur ministère, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir, c'est d'aimer. C'est un peu comme le service de sécurité qu'on n'a pas le soir, mais qu'on a le matin. Ou l'accueil à l'église. C'est ceux qui accueillent et qui doivent regarder les gens en face et qui doivent les saluer, qui doivent les bénir, qui doivent écouter peut-être des petites demandes ou des doléances, que sais-je. C'est des gens qui doivent être bien dans leurs chaussures. Ils sont bien à leur place. Le regard est franc, assuré. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un se souvient de Corée? Je ne parle pas de la Corée du pays, mais on n'a rien à voir avec ça. Mais le Corée, qui était Corée? Peut-être ça vous rappelle quelque chose qui avait eu la révolte de Corée. Ça vous revient? La révolte de Corée. Sous Moïse et Aaron, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève et dit, attendez, il n'y a pas que vous là qui avez droit à entendre la voix de Dieu. Nous aussi, nous sommes sanctifiés. Et en fait, la Bible parle de cette révolte de Corée, même dans le Nouveau Testament, elle nous en parle comme quelqu'un qui s'est soulevé contre les ministères placés par Dieu et qui non seulement a eu un coup de folie, mais qui a persisté dans son coup de folie de révolte. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, c'est dans Nombre chapitre 16, qu'à un moment donné, carrément 250 personnes se joignent à ce Corée pour tenir tête à Moïse et à Aaron et tenir tête à Dieu et à ce que Dieu a établi. Au lieu de dire, oh là là, on s'est gouré, on n'aurait jamais dû faire ça, on va vite se repentir. Au lieu de cela, ils tiennent dans leur révolte. Et de pas en pas, à un moment donné, il y a un jugement qui s'approche et ils le sentent venir et ils savent que maintenant c'est quitte ou double. S'ils ne reculent pas, ils vont être jugés. Et la Bible dit que quelque chose d'incroyable va se produire. La terre va s'ouvrir et va engloutir Corée et 250 hommes avec lui. Et encore, Moïse a intercédé pour eux et ils vont encore être adoucis dans ce fameux jugement. Mais lorsque nous lisons dans Nombre 26, verset 11, ça vaut la peine d'être regardé, Nombre 26, 11, Nombre 26, 11, nous lisons que les fils de Corée ne moururent pas. Incroyable! Nous retrouvons des psaumes écrits par les fils de Corée qui sont des descendants d'un homme qui a été jugé, d'un homme qui a raté sa vie, d'un homme qui a fait un tort incroyable au peuple d'Israël, un homme qui a porté une honte au peuple de Dieu, un homme qui s'est révolté. Mais ce n'est pas parce que le père s'est révolté, avait cet esprit de révolte sur vie, que les fils ont suivi la même étape. Les fils ne moururent pas, ils se sont écartés. Ils ont peut-être dit à la maison, « Papa, ne fais pas ça !» Mais le père, dans son entêtement, il a continué à se révolter. Et il y a eu certainement une tension à la maison, une bagarre à la maison, il y a eu des incompréhensions, des discussions, des fortes empoignades de discussions. Et à un moment donné, les fils ont pris la bonne décision, ils sont éloignés de ce groupe de révoltés. Ils ont craint Dieu et ils ont vu avec horreur une partie de leur famille être détruite dans le jugement. Ils ont parti dans cette mort horrible, mais eux sont restés différents. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que quelqu'un de ta famille ne suit pas le Seigneur que toi, tu dois emboîter son pas. Toi, tu es appelé ce soir, même si tu es seul de ta famille, comme moi je l'étais, seul de ta famille, tu n'es pas obligé de suivre l'incrédulité. Tu n'as pas besoin de suivre les mêmes chemins mauvais que peut-être suivent certains membres de ta famille. Tu peux te distancer, tu reçois de Dieu la force ce soir pour te distancer et pour suivre le Seigneur et pour désirer comme les fils de Corée, pour désirer ardemment sa présence. Les fils de Corée avaient un autre esprit, un autre état d'esprit que le Père. Alors, peut-être qu'ils ont voulu se racheter, ils ont dit, mais il faut que nous maintenant, qu'on se rachète. Notre Père a fait du mal, il a porté une honte, une ombre dans toute l'histoire d'Israël. Il faut que nous, on travaille plus maintenant, qu'il faut qu'on se rachète, qu'on se fasse pardonner. Et dans 1 Chronique chapitre 9, nous lisons quelque chose d'intéressant. 1 Chronique chapitre 9, verset 19. 1 Chronique 9, 19. Nous lisons ceci. Shalum, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait été gardien, avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur conducteur. C'est quand même incroyable. Phinéas, c'est le descendant d'Aaron, c'est le petit-fils d'Aaron. Et les fils de Corée acceptent de se soumettre au petit-fils d'Aaron alors que le père s'était opposé à Aaron. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas parce que des membres de nos familles, peut-être, s'opposent et sont violents et sont rebelles à certaines choses qui sont à l'encontre du plan de Dieu que vous, forcément, vous pouvez le faire. Le père ne pouvait pas se soumettre à Aaron, mais les fils ont accepté de se soumettre à la descendance d'Aaron. Et c'est pour ça que cette bénédiction et cette grâce et cette onction de louange qui est sur eux, parce que non seulement ils ont été gardiens des lieux, la Bible dit encore qu'ils ont fait plein d'autres choses. Au chapitre 9, 1 Chronique 9, 31, il nous est dit que, eh bien, que le Coréite qui s'appelait Mathia avait la responsabilité des gâteaux cuits à la poêle. C'est incroyable ce petit détail. Et puis au verset 32 suivant, donc il est dit que quelques-uns de leurs frères parmi les Kéhatites avaient la surveillance des rangées de pain. Ils les préparaient chaque sabbat. Donc, ils avaient non seulement la charge de faire de l'accueil, mais ils étaient aussi des boulangers. Ils étaient les boulangers du temple. Ils devaient préparer des pains. Ils devaient être dans les services de simplement pratiques. Et puis, bien sûr, dans 2 Chroniques 20, nous lisons ce merveilleux texte. Dans 2 Chroniques 20, nous lisons qu'ils étaient avant tout choisis pour être des chantres. Rappelons-nous, ils viennent d'un milieu où il y avait de la bagarre, de la révolte, il y avait de la contestation dans les chaumières. Et maintenant, ils n'étaient pas du tout habitués à un esprit de louange. Peut-être que vous, à la maison, vous n'avez pas d'esprit de louange. Mais l'Esprit de Dieu en vous faire résonner la louange dans votre cœur. Chez moi, il n'y avait pas de louange. Je n'ai jamais entendu de la louange dans notre maison familiale. Mais ce n'est pas pour ça que je dois forcément suivre les mêmes traces. Je n'ai pas forcément le même ADN spirituel que mes parents. J'ai l'ADN que Christ m'a donné, j'ai l'identité que Christ m'a donnée. Ça, c'est votre identité. Et c'est là que vous recevez un nouvel esprit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Alors, vous recevez, comme les fils de Corée, un esprit de louange. Ils sont devenus des chantres. Regardez ce qu'ils ont fait. 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 19. 2 Chroniques 20, 19. Là, nous sommes du temps de Josaphat. Alors, c'est intéressant. Parce que les fils de Corée étaient déjà à l'œuvre au lendemain du jugement de leur père, donc dans le désert. Ils sont au service bien plus tard sous David. Et maintenant, on passait des rois, différents rois, et nous sommes sous le roi Josaphat. Et ils sont toujours là, alléluia. Ils sont toujours là dans leur ministère. Les descendants des Corites, qui sont toujours ces fils de Corée, eh bien, ils sont toujours là. Ce n'est pas été un feu de paille. Ils sont là dans la persévérance et dans le long terme. Et ils sont là et ils servent toujours dans le champ. Regardez avec moi, chapitre 20, verset 19. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haute. J'aime ça. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Verset 21. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'ils sortirent devant l'armée. Il disait « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Donc, ils ont non seulement fait de la louange, mais ils se sont carrément positionnés pour dire « Nous marcherons sur ordre de l'Éternel et de Josaphat en tête de l'armée » Et c'est nous qui, par notre louange et notre sanctification qui va avec, on va mener un combat spirituel dans la louange. Et c'est les chantres qui marchaient devant. Et c'est comme ça que l'armée a gagné et que l'ennemi a été vaincu. C'est là que l'Éternel a placé une embuscade. Les fils de Corée nous inspirent cet après-midi. Les fils de Corée m'inspirent. Nous n'avons pas besoin de suivre des mauvais chemins de ceux qui auraient dû être un bon exemple, mais qui ont été un mauvais exemple. Le Seigneur lui-même et sa parole, c'est là votre exemple. Recevez un ADN nouveau. Recevez un esprit nouveau. Ces fils de Corée, ils étaient non seulement ceux qui faisaient l'accueil et les gardiens. Ils ne faisaient pas que du pain, des choses pratiques, mais ils avaient un ministère et une onction de louange qui, dans la dimension du combat spirituel, les a conduits à amener tout Israël dans une grande victoire. Alors que tout Israël a été dans une défaite à cause du papa. Maintenant, tout Israël est dans une victoire à cause des fils de Corée. Alléluia. Le vent a tourné, les choses ont changé. Parce que les fils de Corée ont dit oui à leur appel, à leur ministère. Ce soir, il faut dire oui à ton appel. Ce soir, il faut dire oui à ce que Dieu met sur ta vie. Il faut entrer dans les choses, mais tu ne sais rien faire. Mais commence à faire du pain, commence à être gardien, commence à faire ce qui se trouve à faire. Et ensuite, tu recevras davantage. Moi, je n'ai pas été un homme de prière dès le départ de ma vie chrétienne, quoique j'avais toujours une soif dans mon cœur. Mais on grandit dans ce que l'on reçoit. Il faut grandir dedans, il faut avancer, il faut se développer. Les fils de Corée, on les voit une génération après l'autre grandir dans leur appel. Ils ne sont pas restés qu'à faire du pain et à être gardiens. À un moment donné, on les voit vraiment en tête de la louange parce qu'ils ont grandi dans cette persévérance. Et puis une dernière pensée encore, c'est qu'il est toujours marqué « les fils de Corée », toujours ensemble, un pluriel. Ils sont toujours cités comme les fils. Ils avaient cette unité dans la louange. Vous avez remarqué peut-être que lorsqu'on est dans la prière, une des conditions, et dans la louange aussi, une des conditions, c'est l'unité. L'unité de cœur. On joue des instruments différents, mais il faut être unis. On chante des voix différentes, on a des styles différents, on a des sensibilités différentes, mais on peut et on doit être unis. Les fils de Corée, c'était tous des chantres différents. Leur chanter soprano, alto, basse et ténor. Hein, ils étaient des voix différentes, mais ils se sont soumis sous un même directeur de chant, qui est même mentionné, c'était Enan, à certains moments. Et ils se sont soumis tous ensemble pour faire bloc. On fait abstraction de nos différences et on fait ce pourquoi on doit maintenant exécuter ce chant. On s'unit, on laisse de côté les différentes les détails. On met de côté ces détails, on ne se prend pas la tête. Et on est unis. Et c'est à cause de ça que les fils de Corée sont à pluriel. Et cela me parle aussi que, autant ils ont perdu des membres de la famille dans la révolte de Corée, autant ils se sont dit, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais. Plus jamais cette division de la famille, on a perdu papa, on a perdu plein de membres de notre famille, plus jamais ça, on veut rester unis, on sera dorénavant tout le monde ensemble, les fils de Corée, tous unis pour la même cause. Je reviens au psaume 84. Psaume 84, nous l'avons dit, donc écrit par les fils de Corée, maintenant nous avons fait connaissance avec eux, et nous allons maintenant regarder encore un peu plus pour trouver encore plus de substance dans ce texte du psaume 84. Regardez cette sensibilité, regardez cette attraction, combien tes demeures sont chéries. En même temps, c'est des hommes courageux. Mais ils ont une sensibilité incroyable. Tes demeures sont chéries, Seigneur. J'aime ta proximité. Mon âme soupire et défaille après les parvis de l'Éternel. Vous vous souvenez que Israël ne pouvait venir que dans les parvis de l'Éternel. Il ne pouvait pas aller dans le lieu très saint. C'était réservé à qui ? Au sacrificateur. Et puis le lieu vraiment de la gloire de Dieu était réservé au souverain sacrificateur une fois par année. Et la Bible nous dit que le voile a été déchiré et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu quand nous voulons pour y rester. Alors, ce désir des fils de Corée de nous dire « Mon âme défaille après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant », ça veut dire l'absence de la présence de Dieu, l'absence de l'onction de Dieu est une souffrance. Mon frère, ma sœur, est-ce que être un peu éloigné de la présence de Dieu, est-ce que c'est un problème ou est-ce que tu t'y accommodes facilement? Ça doit être une souffrance. Ça doit être un problème. Je ne peux pas m'accommoder et être à l'aise dans un endroit ou dans un moment où je traîne hors de la présence de Dieu. Je ne peux pas être à l'aise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une fois que tu as rencontré l'onction de Dieu dans le lieu très saint, tu ne peux plus jamais oublier ça. Alléluia. Moi, je me souviens, 30 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, de certains moments où j'ai été touché et je sais où ça s'est passé, je peux savoir où c'est l'endroit et je sais que ça, c'est des choses après lesquelles je languis encore aujourd'hui. J'aimerais retrouver ça à certains moments. Eh bien, nous grandissons, bien sûr. Et regardez encore dans le psaume 42 ce qui est dit dans le psaume 42. C'est un texte qui correspond assez bien avec ce que nous disons. Il est également de la plume des fils de Corée. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des cours d'eau, mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Ce psaume 42 est appelé aussi le psaume des Huguenots. Les Huguenots, comme vous le savez, qui, lorsqu'ils n'avaient pas l'autorisation de se rassembler, on a détruit leur temple, on a défendu les rassemblements même dans les maisons, On ne pouvait pas conserver une Bible à la maison. Ce psaume des chrétiens, du chrétien errant qui soupire après et qui se souvient avec effusion de cœur lorsqu'il pouvait encore se rassembler dans les acclamations et la reconnaissance d'une multitude en fait. Maintenant, le cœur est abattu, le cœur est triste parce que ce n'est plus possible. Je pense que ce psaume correspond à tellement de gens aujourd'hui qui ne peuvent plus se rassembler par menace d'être mis à mal à cause de leur foi. Et j'aime bien cette conclusion du verset 6 où il est dit « Pourquoi t'as-tu mon âme ?» Avant de parler à Dieu de mon âme, je parle de Dieu à mon âme. Je parle d'abord à mon âme. Mon âme, pourquoi t'as-tu ? Il est ton salut, il est ton Dieu. Attends-toi encore à lui. Il est dit au verset 7 de ce psaume 42, « Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. » Une autre traduction dit ceci, « Quand j'ai la mort dans l'âme, je me mets à répéter tout ce que je sais de toi. » Ça, c'est bien dit. Je me mets à répéter tout ce que je sais de toi. Mon âme, tu connais Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Mon Dieu, l'Éternel des armées, Dieu de Jacob, mon bouclier, mon soleil, tout ce que je sais de toi, Seigneur, c'est pour ça que je garde ma confiance. Tu ne dois pas t'abattre, mon âme. Relève ta tête, même si c'est dur. Relève ta tête. Alors, c'est ça le désir des fils de Corée, de retrouver la présence de Dieu. Et d'avoir ce lieu où on est bien. Il dit comme une hirondelle construit son petit nid. Une hirondelle, elle n'a rien à se défendre. Il faut juste qu'elle accroche son nid quelque part dans la maison de Dieu. C'est suffisant. Et elle veut que toute la petite nichée doit être dans la maison. Peut-être que dans ta famille, toute la nichée n'est pas encore dans la maison de Dieu. Seigneur, toute, comme l'hirondelle a construit son nid dans la maison de Dieu. Moi, je veux aussi que tout mon nid soit dans la maison de Dieu. Amen. Tout mon nid. Il manque encore quelques oisillons, peut-être, l'un ou l'autre, qui n'est pas encore dedans. Seigneur, je veux croire et je prie que toute la nichée soit dans ta maison, en sécurité, en sécurité. C'est en sécurité qu'on est dans la maison du Seigneur. Ah, il y aurait encore tant de choses à dire. Ceux qui habitent dans ta maison te loueront encore. Nous avons déjà parlé un petit peu de cela. Le verset 6, encore une fois, je le relis avec vous. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ma force personnelle ne suffira pas, mais la force de Dieu m'est donnée. Et même si je dois passer par la vallée des larmes, je l'ai déjà dit aussi, la vallée des larmes, eh bien, elle est là aussi pour mon éducation, elle est là pour me faire comprendre des choses, pour avoir compassion. Et c'est comme quand je passe un tunnel, lorsque vous passez le Gothard, par exemple, eh bien, vous êtes concentré à la conduite, vous êtes concentré, et puis vous regardez les kilomètres qui restent à faire, et vous dites, il n'y a plus que ça, il n'y a plus qu'autant, il n'y a plus qu'autant, et vous avez hâte de voir la lumière. Et quand, là, tout à coup, au bout de ces combien de kilomètres, je ne sais plus combien c'est maintenant, plus de 30, je ne sais plus très bien, je me trompe peut-être. Alors quand vous arrivez enfin au bout du tunnel, après 20 minutes, je crois que ça fait 20 minutes de route à une distance bien définie, à une vitesse bien définie, vous voyez enfin au bout du tunnel la lumière qui arrive, et là le sourire apparaît sur le visage, on commence à ouvrir les fenêtres, et puis on est content de voir que c'est le bout du tunnel. C'est la vallée des larmes que j'ai traversée. Frère, mon frère, ma sœur, je pense à toi ce soir. Tu n'as pas besoin de rester dans la vallée des larmes. Tu dois simplement la traverser. Traverser. Dites avec moi, traverser. Ce sont des traversées. Ce sont pas, je ne demeure pas, je n'habite pas dans la vallée des larmes. Je la traverse, la vallée de Baca, et elle deviendra une source. Je vais découvrir des sources secrètes qui vont aussi devenir bénédiction pour moi aujourd'hui, mais même aussi pour plus tard. Un lieu de source afin que je puisse comprendre les autres. Notre force va augmenter tout en allant. Il y a des gens qui disent, il faut que je me repose. Moi, j'arrête tous les services, j'arrête tout parce qu'il faut que je retrouve des forces. Ce n'est pas biblique. Si vous prenez du recul, vous allez vous affaiblir. Si vous vous éloignez de l'église, vous allez automatiquement, je vous le dis, vous allez ralentir et vous allez vous affaiblir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en prenant du recul que vous allez vous fortifier. C'est en persévérant dans votre marche avec vos frères et sœurs, en continuant, vous allez voir les forces surnaturelles ressurgir en vous. Bien sûr, il faut écouter son corps quand on n'est pas bien, il faut stopper, il faut se reposer quand il faut. Mais je parle de la vie spirituelle. Ce n'est pas en prenant du recul qu'on se fortifie, c'est en avançant dans la marche. Leur vigueur ne cesse de croître, ils se présentent devant Dieu à Sion. Notre force augmente pendant la marche. Alléluia. C'est une vérité. Combien de fois ne l'ai-je pas vécu? Donc le bonheur de ce psaume, c'est d'habiter dans sa présence pour avoir un esprit de louange. C'est d'être habité par sa force et voir que Dieu ouvre des chemins pour moi. C'est de connaître Dieu par ses noms et par ce qu'il est, par mon expérience aussi, pour avoir une confiance inébranlable en lui, comme le verset 13 le dit. Et je termine en disant au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère être sur le seuil de la maison de Dieu que de résider sous les tentes de la méchanceté. » Et cela nous ramène à l'histoire des Corées. Ces hommes de Corée n'ont jamais oublié d'où ils viennent. Il y a une ombre au tableau de la généalogie des fils de Corée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les temps lointains et ils se disent « plus jamais ça, plus jamais ça ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère encore être, ne pas tout avoir comme je voudrais, être sur le seuil de la maison. Je ne suis pas vraiment au milieu de la maison, mais je suis au moins à proximité, tout près, plutôt que d'être dans le camp de l'ennemi. Je préfère me positionner clairement. Et autant ils se sont positionnés clairement du temps de la révolte de leur papa, où ils se sont éloignés de cet esprit de révolte, ils ont vu malheureusement les autres partir dans la mort, mais ils n'ont jamais oublié cette leçon. Ils ont dit « je préfère être radical jour après jour en disant « pas de compromis avec le péché ». Je n'entre pas dans la dimension du péché. Je m'éloigne du chemin de la révolte de Corée et je fais mon choix aujourd'hui pour être dans la maison de Dieu plutôt que dans les tentes de l'iniquité. » Et à cause de cela, eh bien, leur vocation a été sauvegardée. Ils sont restés des chantres, ils sont restés des gardiens, ils sont restés des hommes et des femmes de Dieu. Amen.